Bon, alors si vous voulez bien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on reprenne de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Parce que je crois que c'est. N'hésitez pas, vous prenez un petit bout de papier, prenez un petit bout de papier, vous dites, voilà, bon, il y a un truc que j'ai pas saisi, et c'est important, voyez? On sent, j'espère que vous sentez les moments importants. Il y a des moments qui sont moins importants. Bon, d'accord, le truc est du nombre de fautes qui sont dans le. Ça, bon. S'en fiche. Mais ce qui est important, c'est le cœur, hein, du mystère. On essaie de rentrer dans le mystère. On va s'apercevoir, au fur et à mesure qu'on va monter dans l'Ancien Testament, au fur et à mesure qu'on va faire cette grande montée, on va se rendre compte de tous les éléments du puzzle qui vont se rassembler et on va comprendre pourquoi le sacrement et le mystère de la confession. Pourquoi est-ce qu'il est structuré comme ça dans le corps mystique de Jésus? Et quel est son fruit? Et comment on fait pour rentrer dedans? Oui.
Par rapport à ce que vous avez dit sur Moïse, c'est un petit peu connexe quand on regarde. C'est quand vous avez dit que Moïse, pas Moïse,
Abraham.
c'est un acte de foi, et il a reçu la grâce sanctifiée.
Oui.
Mais l'acte de foi ne peut être posé que. Pas d'acte naturel, c'est un acte surnaturel.
C'est un acte surnaturel.
Donc, est-ce qu'il faut le rattacher à la venue du Christ?
Ça se rattache au Messie.
D'accord.
Ça se rattache au Messie. Ça se rattache au Messie, parce que Jésus l'a dit, d'ailleurs, Abraham m'a vu et il s'est réjoui.
Il l'a posé par une grâce actuelle
En vertu d'une grâce actuelle, en vertu d'une grâce que le Messie lui a donnée. Le Messie lui a donné, puisque le Messie est déjà dans le Bereshit, hein, donc il est avant le premier jour de la création, donc il n'y a pas de problème. Donc, le Bereshit, et du reste, on va voir qu'Abraham, il va être en contact avec Melchisédek, par exemple. Il va être en contact avec des visages de la très sainte Trinité, les trois anges et Dieu sous visage d'une triple manifestation angélique qui lui parle au singulier. Bon, il va avoir le visage de la très sainte Trinité, bon, un sacrement de la très sainte Trinité, d'une certaine manière. Il va avoir le sacrement du Messie à travers Melchisédek, à travers le pain et le vin. Il va avoir donc, et ici, tout à fait au début, il a la foi, puisque il y a la promesse de la terre promise, il y croit. La promesse de la terre promise, quand il y a la promesse de la terre promise, c'est la promesse du Messie. Mais ça se fait à travers un sacrement qui est la terre promise, qui est la Palestine, qui lui est promise. Et à travers un sacrement, il croit. Et il sait à qui il croit. Il sait qu'il adhère au Messie. Et donc, il fait un acte de foi. Et donc, il reçoit la grâce sanctifiante. Parce que c'est la foi qui justifie. C'est pas le baptême te donne la grâce sanctifiante, mais c'est le baptême te donne, d'une certaine manière, une grâce sanctifiante qui s'enracine de manière habituelle en toi. Mais la grâce sanctifiante est donnée par la foi. C'est la foi qui justifie. C'est bien qu'il y ait plein de gens qui sont baptisés et qui ont la grâce sanctifiante parce qu'ils ont l'acte de foi. Ils ont la foi. Ils ont la foi. Peut-être pas explicite comme nous, mais ils ont cette foi implicite. Ils croient que Dieu existe et ils croient que Dieu est amour et ils croient que Dieu est providence et ils obéissent à la providence de Dieu. Et donc, comme ils croient que Dieu est amour, sans le savoir, ils croient à la très sainte Trinité. Et quand ils croient à la providence, ils croient que Dieu opère efficacement un secours à l'homme, et donc ils croient à la rédemption. Et s'ils obéissent à la rédemption, à la providence, implicitement, explicitement, je veux dire, ben ça veut dire qu'implicitement, ils croient au rédempteur. Et donc, les deux colonnes de la foi sont dans leur vie intérieur et ils ont la grâce sanctifiante.
Depuis quelques années, d'avoir eu la possibilité de proposer un acte de foi, on ne peut pas vivre de la grâce d'une certaine manière, vu du surnaturel. C'est une vertu nouvelle, surnaturel.
Oui, tout à fait.
La grâce. Parce que le père de Haut disait à un moment donné que le théologien, s'il perd la grâce, ça m'embête de vous parler de ça, mais bon, ça m'a souvenu. Si le théologien perd la grâce, il peut encore parler des mystères chrétiens.
Oui.
Mais bon, d'une façon très, très pauvre, mais il peut quand même en parler. Mais s'il perd la foi, il ne peut plus en parler du tout. Il dit que si le théologien perd la foi, c'est terminé. En fait, il ne rentre plus du tout dans quoi que ce soit.
Oui, pour être théologien, s'il perd la foi, il n'est plus théologien. Alors, il parlera des choses de la révélation en philosophe. Et il fera une gnose. Et pour être théologien, il faut avoir en même temps une intelligence humaine éveillée et en même temps la foi.
Et donc vivre de la grâce d'une certaine manière, quoi.
Ah ben non. C'est par la foi qu'on reçoit la grâce, mais c'est pas tous ceux. C'est pas automatique, je dirais, parce qu'il faut que la foi soit vive pour qu'il y ait la grâce. Donc il faut que la foi avec la charité. Donc il y a des gens qui peuvent très bien avoir la foi sans la charité.
Quand on dit que c'est une vertu théologale, c'est une vertu surnaturelle.
Mais une vertu théologale, c'est une vertu, donc elle ne peut pas diminuer. Mais elle n'augmente plus.
C'est pas naturel, un acte de foi.
Ah non, un acte de foi, c'est pas naturel. C'est surnaturel. Tout à fait. Et ici, donc Abraham, il a fait un acte de foi surnaturel. C'est vrai qu'il a eu une motion divine, une grâce actuelle, qui a surélevé son intelligence, qui fait qu'il a rencontré le Messie, et il y a cru, à travers cette parole de Dieu. Et il y a obéi. Ah ben c'est bien sûr une motion de grâce qui a permis à son intelligence d'être surélevée dans la lumière surnaturelle de la foi. Mais il a pris pleine possession de cette foi. Et il a obéi. Et donc ça lui a été imputé à justice, il y a obéi par amour, et du coup il a eu la grâce sanctifiante. Jésus l'a regardé comme quelqu'un qui était rempli du Messie. Qui était rempli de la grâce. Les musulmans peuvent parfaitement vivre de la grâce s'ils obéissent intérieurement à cette motion de la grâce actuelle par la foi. Et attention, évidemment, s'ils font ça, eh bien, petit à petit, ils vont se rendre compte que si jamais quelqu'un se présente à eux et qui vit de la même foi, puisque c'est la foi chrétienne en fait, hein, il n'y a pas 36 fois, il n'y a pas la foi mahométane, ça, il n'y a qu'une seule foi, c'est la foi dans le Christ. Mais eux, ils obéissent, ils aiment Dieu, donc ils obéissent à cette grâce de Dieu. C'est Dieu qu'ils aiment. Ils ne savent pas que c'est la grâce du Christ, mais c'est à ça qu'ils obéissent. Et si un jour ils rencontrent un chrétien, un saint, le saint curé d'Ars, ou sainte, je ne sais pas moi, s'ils rencontrent... je ne sais pas, elle n'est pas encore canonisée, mais s'ils rencontrent, je ne sais pas moi, n'importe qui, tout de suite ils reconnaissent que c'est la même grâce. Et ils avouent, et ils confessent, qu'ils connaissent Jésus. Les musulmans, tous les musulmans qui vivent de la... Enfin, pour autant qu'on puisse les reconnaître, hein, c'est facile à reconnaître un musulman qui a la foi, mais une foi qui est surnaturelle. Parce qu'ils peuvent avoir une foi simplement religieuse, donc humaine, uniquement liée à une tradition, culturelle, quoi. Et ils sont musulmans et ils croient ce que dit, ce qu'on leur a transmis. Mais une foi surnaturelle, donc personnelle, d'amour avec Dieu, et ils obéissent. Ils s'emparent de toute la grâce que Dieu leur fait intérieurement, et du coup, c'est ce lien entre Dieu et l'homme qui est en eux, c'est le Messie. Et ils savent, et ils vont te dire explicitement qu'ils vivent de Sidnaïssa, de Jésus. Oui, non, mais ça, c'était des anecdotes, il y en aurait des centaines d'anecdotes. Oui. Oui, mais ça c'est un exemple qui n'est pas valable, parce que lui, il le savait par mode de vision, par des visions. Oui, certes. C'est vrai, un jour, donc j'étais quand j'étais dans le Sahel, il y avait toute cette famine, et puis, donc, c'était une terre islamique, et alors... 80, je ne sais plus combien, 90, 95% de musulmans là-dedans, dans ce pays où j'étais. Bon, moi j'avais la petite croix, c'était une petite croix en porcelaine, enfin c'est pas en porcelaine, comment est-ce qu'on appelle ça, en émail, vous savez, avec des petites fleurs dessus, c'était très joli d'ailleurs, c'est très joli, c'était comme ça. Enfin tout le monde savait quand même que j'étais Motoum al-Masifou, et il m'appelait du reste comme ça, l'homme du Christ. Alors, assez vite, après mon arrivée dans ce pays, il y a eu la détresse une détresse de sécheresse affolante qui a fait que presque tout le monde était en danger de mort, de famine, de mourir de faim. Alors, je m'en suis occupé. J'ai essayé de m'en occuper. Le père missionnaire m'a demandé de m'en occuper. Lui, il ne pouvait pas le faire pour éviter l'expulsion. Il devait rester, lui, après. Donc, je m'en suis occupé et on a essayé de prendre des gens du coin pour essayer d'aider. Et puis, finalement, au bout d'un certain temps, on s'est rabattu. On a essayé d'être le plus œcuménique possible, si je puis dire. Et puis finalement, on a été obligé de se rabattre uniquement sur les Africains chrétiens. Parce que tous les musulmans, c'est pas pour les critiquer, on était complètement effondrés de constater ça. Mais tous les musulmans prenaient pour eux. Dès qu'ils pouvaient faire une fausse facture, un détournement de fonds, tout ce que tu veux, ils le faisaient au maximum. Sauf deux. Et en particulier un. Et alors, c'est Sadou. Sadou, lui, c'était un bouzou. Les bouzous sont les esclaves des Touaregs. Mais Sadou, il devait avoir 40 ans à peu près, 42 ans. Et il y avait dans son regard quelque chose de très fort, il y avait quelque chose de rayonnant. C'était un type qui rayonnait. Mais il ne savait pas lire, pas écrire, bien entendu, c'était un bouzou. Mais il avait ce visage rayonnant, il donnait gratuitement, il ne prenait rien pour lui, il aimait Dieu. C'était un bon musulman, tout simplement. Les autres, c'était des mauvais musulmans. Moi, je leur disais toujours, vous êtes de mauvais musulmans. Un musulman aime Dieu. Tandis que je dis, oui, mais toi, t'es pas musulman. Mais je dis, moi, je suis plus musulman que toi. Je dis, moi, je respecte Dieu, toi, tu le respectes pas. Regarde, tu respectes pas. Tu prends tout. Et Dieu aime ça? Mais dis donc. Et la quatrième colonne de l'islam, la charité, qu'est-ce que t'en fais? Tu n'aimes pas Dieu, t'es un mauvais musulman. Mais Sadou aimait Dieu. Là, c'est pour ça qu'il donnait. Ça a duré quand même un an et demi, cette histoire. Et il est toujours resté très discret. C'est le secret, c'est celui qui aime Dieu. Mais quand même, à la fin, avant que je parte, avant que je ne reparte, donc c'est ça peut-être que j'avais raconté une fois. Il m'a arrêté et il m'a dit, il m'a guitare. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, ce tout copain? Tu sais, moi j'aime Dieu. Oh, je dis, surtout, je sais bien. Je l'ai vu, mais t'as pas besoin de me le dire, je le sais bien. Il dit, oui, mais moi j'aime Dieu comme toi. Ah, je dis, je sais, ça doit, je sais. Mais, il dit, oui, mais moi j'aime Dieu et je l'aime comme toi, mais parce que je fais tout ce qu'il me dit. Ah, il dit pourquoi et comment est-ce qu'il fait pour te le dire? Ah ben, la nuit, quand je dors, il vient quelqu'un, et puis il se montre à moi, et puis il me dit, Sado, tu vois, là, regarde ce que tu as fait. Le matin, c'était pas bien, ça. Là, l'après-midi, ça va. Ça, c'était bien. Puis ça, là, non, ça, faut pas. Alors, j'écoute ce qu'il dit. J'aime ce qu'il dit. Et le lendemain, je fais comme il a dit. Il m'a dit, mais dis-moi, ce messager qui t'apporte tout ça, il dit, ben, il ressemble à quoi? Alors, il m'a dit, ben, c'est un ange, c'est quoi? C'est une bouche, c'est quoi? Il me dit, c'est comme un homme. Ah, je dis, par hasard, cet homme que tu vois, ben, est-ce qu'il est noir comme toi, comme vous tous ici, ou est-ce qu'il est blanc comme moi? Il dit, il est blanc comme toi. Il dit, ah bon? Il dit, moi, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas la barbe? Si, il a la barbe. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une ceinture en or? Il dit, oui, il a une ceinture en or. Ah, tiens, bon, c'est bien. Dis-moi, est-ce que tu as été voir ton marabout pour lui demander qui c'était? Il dit, oui, j'ai demandé au marabout pour demander qui c'était. Dis-moi, est-ce que ton marabout t'a dit qui c'était? Il m'a dit oui. Il t'a répondu quoi? Il m'a dit, c'est Sidney, ça. le prophète Jésus. C'est Jésus. Donc voilà quelqu'un qui savait expérimentalement, dans sa foi, son amour de Dieu, que quand Dieu parle, c'est Jésus. Le Verbe du Père, c'est Jésus. Quand Dieu prononce un logos, une parole, un verbe d'amour, c'est Jésus. Jésus, c'est le Verbe incarné. Il le savait. Et il en vivait. Et donc, il était chrétien. Et il savait qu'il était chrétien. Et dit, je suis chrétien comme toi. Mais je reste musulman. Parce que je suis musulman. Mais il est bien évident que Abraham, c'était pareil. Abraham, le Messie, venait à lui. Et puis le Messie se promettait à lui comme étant son bien. Et comme faisant d'Abraham une source de grâce avec le Christ. C'est plus Abraham qui vivait, c'est le Christ qui vivait en Abraham. De sorte que la torpeur du Christ peut le prendre et faire que le feu prenne les victimes, c'est-à-dire tous les pécheurs. Sans séparer en deux par le péché. Je n'ai pas besoin d'avoir le baptême pour vivre de la grâce et du Messie. Parce que c'est la foi qui justifie. C'est la foi dans le Christ qui justifie. Et justification, ça veut dire recevoir la grâce sanctifiante. Donc c'est trop clair. Il est bien évident que tous les musulmans qui ont cette foi remplie d'amour n'ont pas forcément la vision de Jésus qui vient chaque nuit, vous comprenez? C'est possible. Mais ils ont tous au moins ce pressentiment que Dieu, qui est au-delà de tout, se fait tout proche de nous pour prendre un langage humain. Ça, c'est le Verbe incarné, ça. C'est le Verbe incarné. Et quand ils rencontrent un chrétien qui vit la grâce, qui vit de l'Esprit Saint, ils reconnaissent que c'est la même grâce, que c'est la même parole, et ils savent que c'est la même Église, c'est le même peuple, c'est le même Dieu. Et ils vont mettre peut-être un an et demi, avant d'oser le dire. Avant d'oser le dire, oui. Parce qu'ils vivent peut-être de la grâce, mais ils ne vivent pas encore de l'Église. C'est-à-dire du corps mystique de Jésus. Ils vivent de la grâce de Jésus, mais ils ne vivent pas encore de l'Église. Ils ne vont pas encore être source de résurrection. Ils vont être source de salut, mais pas source de résurrection. C'est ça la différence entre ceux qui vivent du Christ dans les autres religions et ceux qui vivent du Christ dans l'Église. Parce que être sauvé, c'est une chose, et être source de résurrection, c'est autre chose. Être sauvé, ça veut dire que on va pas dans la réprobation éternelle. Et être source de résurrection, ça veut dire que notre corps ressuscitera, notre cœur ressuscitera, le cosmos tout entier ressuscitera. Et toute la matière sera brûlée dans la gloire de la résurrection. Dans une béatitude, une confession, une ouverture, une allégresse infinie, continuellement, qui s'intensifiera continuellement.
J'ai l'impression que vous avez dit une fois que son très réel, son physique, l'Église du Christ était partout où il y avait la grâce
sanctifiante. C'est vrai. L'Église est partout où se trouve la grâce sanctifiante. Au fond, le corps mystique de Jésus, c'est tous ceux qui vivent de la grâce sanctifiante. Avec, en plus, ceux qui sont baptisés. Parce qu'ils ont la grâce sanctifiante en puissance. Ce que n'ont pas les autres. Donc même quand la foi est morte, les baptisés font partie du corps mystique de l'Église. C'est pour ça qu'il y a toujours un mystère de séparation de l'âme et du corps. Hein. Il y a toujours un mystère du samedi saint dans le corps mystique du Christ. Il y a toujours quelque chose qui se séparait. Il y a des chrétiens qui sont baptisés et puis qui sont morts, qui ont matérialisé leur baptême. Mais ils font partie du corps mystique du Christ. Et puis, il y a tous ceux, bien sûr, qui vivent de leur baptême et tous ceux qui vivent de la grâce sanctifiante par la foi. Ça, c'est le corps mystique du Christ. Mais il n'y a que ceux qui sont dans le corps mystique du Christ explicitement qui peuvent vivre des sacrements. Et il n'y a que les sacrements qui donnent la glorification du cosmos, la glorification de l'humanité, jusque dans le point de vue de la chair, jusque dans le point de vue substantiel.
Mais eux, ils ressusciteront quand même.
Ah mais oui, oui, ils sont sauvés, eux, et même ils sont source de salut pour les autres. Non.
Pourquoi?
Source de résurrection, non.
Parce que c'est que par le
corps physique avec les résurrections. Il faut que le salut aille jusqu'au point de vue du corps, jusqu'au point de vue physique, jusqu'au point de vue de la matière. Oui, spirituellement, ils élèvent toute l'humanité, ils la rapprochent de la résurrection, mais ils ne sont pas cause instrumentale. Ils ne sont pas cause, ils ne sont pas source de résurrection. Parce qu'on va voir au sacrement de confession le fruit fabuleux. À chaque fois qu'on va à Jésus crucifié, dans le mystère de la confession, à travers le sacrement, pouvoir. C'est vrai, il y a une espèce de mort, vous comprenez ? On meurt. Parce qu'à un moment, quand on dit, ben voilà, j'ai regardé par le trou de la serrure. Tu sais, quand t'as 5 ans, j'ai regardé par le trou de la serrure. Petite fille qui a 5 ans et puis qui va faire sa confession, ça va. Quand elle dit ça, elle pense pas à Dieu, tu comprends? Elle est complètement. Elle se relie à son péché. Ouais. Il n'y a plus que ça pour elle. Elle est morte du point de vue. Bah, sa dignité est morte du point de vue de. C'est mortel, c'est vrai, c'est mortel. Alors il y a une torpeur. Et à travers le sacrement, quand je vis à travers cette mort-là, je rejoins, et c'est ce que fait le sacrement. J'ai reçu quelque chose à travers ça, de ce que Jésus vit sur la croix, quand sa divinité s'est évaporée, pour ainsi dire. Il n'y a plus rien. La petite fille, elle reste une petite fille, si vous voulez. Mais actuellement, il n'y a que le péché. Elle s'est identifiée avec son péché quand elle se confesse. Elle ne se justifie pas. Et Jésus, c'est pareil. C'est Jésus qui, sur la croix, a donné ça aux hommes. Il a donné ça quand ils se confessent, quand ils confessent leur péché. Il a donné cette attitude qui fait que lui, sa divinité a disparu à ses propres yeux. Il n'y pense même plus, il ne le sait plus. Il ne le sait plus. Il n'y a plus que le péché, il n'y a plus que ça. C'est bitume, c'est gluant, c'est collant. Il n'est rien du tout. Il n'est que ça. Il n'est que ça. Puanteur et pourriture, il n'est que ça. Il n'est que ça. De la face du Père, il n'est que ça. Et en mourant sur la croix, Jésus nous a donné cette attitude de la confession. C'est une attitude. Vous voyez ? C'est une attitude qui est comme une matière du sacrement de pénitence. Ce n'est pas le sacrement de pénitence, c'est une condition préalable. Et on voit bien avec Adam, avec Caïn et avec les hommes du déluge que ça ne venait pas, même en face de Dieu. Puisque Dieu descend dans le jardin et Dieu dit à Caïn, alors, le sang de ton frère. Sur moi, je prends la responsabilité de mon frère. C'est Jésus crucifié qui a donné à l'humanité la possibilité de reconnaître son péché. Et avec cette possibilité de reconnaître son péché, ça, voyez, tout péché est enveloppé par la grâce, ce que je vous expliquais tout à l'heure. À cause de l'incarnation de Jésus. Jésus s'est incarné, c'est pour ça, au centre de tout péché, il y a cette confession de Jésus qui est substantiellement fait péché pour nous. C'est très très fort, ça. Et c'est pour ça que la première fois où on commence à voir une confession dans l'Écriture, c'est après la première alliance, après qu'il y ait ce cafard sur l'arche. La première fois qu'il y a un holocauste. Donc la première fois que le Christ apparaît. La première application du sacrifice éternel de Jésus sur la croix dans le temps. Ce qui montre bien que Jésus, même quand il est mort, c'est vraiment Dieu, c'est éternel. Il peut naviguer, il peut appliquer. Mais cette application ne peut se faire que par la foi. Il ne faut jamais l'oublier. Et Noé a cru. Noé a cru. Dieu lui a dit, tu construis une arche. Tu construis une arche pour... capable de recevoir 800 000 personnes, le Midrash dit en un an. Il a dû obéir vite. Hein. Ça représentait un sacré travail. Donc, il y a eu une obéissance. Est-ce que vous imaginez que ça puisse être sans la grâce du Messie, ça ? Que sa grâce a été surélevée pour dire oui ? Pas possible. Et il a quand même obéi. Vous voyez, comme sacrement de la confession est lié substantiellement à l'obéissance. J'obéis. Le Christ, il s'est confessé et il s'est fait péché pour nous par obéissance. Je ne vais pas à l'Eucharistie par obéissance. Je vais à la confession par obéissance. Parce que je sais que je ne peux pas accéder à l'Eucharistie sans la confession. Sinon, c'est un sacrilège. Parce que je divise le sacrement. Et je n'ai pas le droit de diviser un sacrement. Je peux encore diviser mon cœur par le péché, ça c'est tolérable. Mais toucher l'Esprit Saint, ce n'est pas tolérable. Et c'est pour ça que l'Église tient tellement. Parce qu'on ne sépare pas ces deux sacrements. C'est ce que je voudrais que petit à petit, on voit à travers l'Écriture. Que ces deux sacrements sont inséparables. Il y a le cafard, voyez bien, le cafard de Noé, et tout de suite, il y a le sacrifice des animaux. Vous savez qu'on les mange après. L'Eucharistie est toujours liée à la confession. La confession est toujours avant l'Eucharistie. Toujours. Bon, je ne sais pas où on en était. Oui, on va continuer. Et on va regarder. Mais voyez bien que le sacrement de la confession, c'est d'abord une attitude humaine qui est rendue possible à cause du Christ, même si on ne s'en rend pas compte. Et qui va nous permettre d'accéder ensuite par la foi au sacrement à travers cette révélation que nous faisons devant Dieu de ce péché. Puis, ensuite, il y a cet examen de conscience. Puis après, il va y avoir l'aveu. Puis après, il va y avoir l'exhortation, la lumière de réparation. Puis après, il y aura, surgissant au milieu de l'exhortation, l'absolution. Et avant tout cela, qui prend tout cela pour en faire l'unité dans un corps, il y a la contrition. Et après, ben, il y a la pénitence. Puis après, il y a l'action de grâce. Puis après, il y a le fruit du sacrement. Il faudra qu'on regarde tout ça. Il est évident que le fruit du sacrement est un fruit, c'est un fruit qui n'est déjà dans l'absolution, il y... c'est plus nous. Déjà dans l'absolution, c'est terminé. L'absolution ne supprime pas le péché. L'absolution transforme notre confession. C'est une transformation. Elle transforme notre confession, qui est une confession humaine, faite face à un homme humain, dans un sacrement divin et chrétien, face à l'Église. Elle s'est transformée dans la confession que fait tout le peuple humain, de tous les temps, dans le cœur de Jésus crucifié, face au Père. C'est une transsubstantiation. Et dans l'instant où je me confesse, c'est les péchés du monde entier, mais qui sont entièrement transformés, entièrement pris par la miséricorde de Dieu. Dans l'instant d'après, si personne ne se confesse, c'est la rechute. pour ça que sans l'Église, l'univers, l'humanité ne peut pas tenir. C'est physiquement impossible. Mais enfin, on va voir ça petit à petit. À quel point on est responsable à travers les sacrements. Et quand on va pas au sacrement de la confession pour se libérer, comme on va chez le psychanalyste, en disant, waouh, on va se libérer. D'ailleurs, quand on va chez le psychanalyste, on se montre pas tel qu'on est. On montre simplement sa masturbation psychologique, c'est tout. On montre simplement son amertume. On dit, ah, qu'est-ce que je souffre, mais oui, c'est horrible, j'ai été blessé, etc. On montre pas du tout son péché. Ouais. On montre bien ce qu'on veut. Mais dans le face-à-face de la confession, on montre tout. On peut rien cacher. Et si on n'a pas tout montré, il n'y a pas de confession. Quelqu'un qui a... Ça c'est ce que disait Saint Jean Bosco. Il donnait toujours l'exemple à ses petits jeunes, hein, à ses petits enfants, quand il les préparait à la confession. Et Dieu sait que les enfants, ils se confessaient tous. Hein, parce que Saint Jean Bosco, il parlait de la confession tout le temps, tout le temps, tout le temps. À ses jeunes. Tout le temps. Alors, c'est génial. Alors qu'il y a un petit garçon qui venait de confesser à lui, et puis il lui dit, oh, dis donc, au bout de 10 minutes que le petit se confessait, il dit, il y a un démon avec des cornes là, qui est à côté de toi. J'entends ce qu'il t'a dit, tu sais. Il t'a dit de surtout ne pas dire ça. Il t'a bien eu. Hein. Alors va. Enlève ce démon et reviens demain. Jean Bosco, le curé d'Ars, il avait des petits trucs comme ça, il était très miséricordieux, le curé d'Ars. Il dit, t'inquiète pas, je le sais. C'est pas original. C'est pas original. Il dit, oui, mais si tu dis pas tout. Et il donnait l'exemple aussi de ce moine, qui est une histoire vraie du reste, de ce moine qui était rentré, qui avait une réputation de sainteté, etc., tout juste si on ne voulait pas le canoniser presque à sa mort. Et ce pauvre moine avait fait une faute, il s'était fait moine à cause de ça. Il n'avait jamais réussi à l'avouer. Et sur son lit de mort, il ne l'avait toujours pas avoué. Et Saint Jean Bosco avait dû prier pour ce garçon. Il était mort assez jeune d'ailleurs, ce moine-là. Il avait dû prier pour ce garçon, parce qu'il avait été sauvé in extremis. Mais il était au purgatoire. Hein. Il avait expliqué à quel point il avait frôlé l'enfer. Parce qu'il n'a jamais confessé son péché, jamais. Il a voulu qu'on croie que c'était un saint. Et pourtant, à chaque fois qu'il allait en confesseur, il n'osait pas le dire. Toutes ses confessions étaient invalides de plein droit. Ça, c'est ce qu'enseigne l'Église. Hein. C'est pas Saint Jean Bosco. C'est parfaitement doctrinal, ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut décrire ces péchés. Hein. Non, il ne faut pas les décrire. Il faut les dire tels qu'ils sont. Voilà. J'ai péché. C'est vrai. C'était pour qu'on ne voit pas que c'est moi. C'est moi qui ai mis la crêpe chantilly. C'est moi. La petite fille, c'est génial, la confession de la petite fille. Alors, pas avoir peur, de toute façon. Alors, plus c'est horrible, mieux c'est. Moi, je peux vous le dire en tant que confesseur, quand j'ai quelqu'un qui vient et puis qui me dit des trucs. En dehors de la confession, vraiment, je serais, je sais pas, même moi, je serais ébranlé. Mais je peux vous affirmer que quand, dans une confession, je me dis, tiens, j'ai un saint. Je vous affirme. Il y a un saint, là. Je dis quelque chose, puis c'est tout. Tout simplement. Mais et il ne se complaît pas dedans en disant, ouais, alors, en montrant tout, le comment, le pourquoi, etc. Non, il dit, voilà. trompé ma femme. J'ai trompé. J'ai trompé ma femme. Avec une espèce d'ours. Qui était assez gluant d'ailleurs. Bon, faut pas décrire, mais j'ai trompé ma femme avec une espèce d'ours. Et puis, c'était vraiment vicieux. C'était vicieux. C'était vraiment... Voilà, je demande pardon à Jésus pour ça. Mais oui, parce que si un jour c'est... Parce que, en plus, à quelqu'un qu'on connaît, en plus. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais à Paris, j'avais des tentations d'aller voir des confesseurs qui étaient sourds. Alors, celui-là, il est sourd. Ah, oh, alors, quand, lorsque j'ai été à Hobbs, alors à Cotignac, il y a des petits frères. Et les petits frères, bon, ils sont gentils comme tout, mais ils sont pas sourds. Mais avec eux, il y a un père qui s'appelle le père Robert. Et qui est un confesseur merveilleux, un confesseur extraordinaire. Et il a un appareil dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite, et il est sourd de l'oreille gauche. Enfin, il était sourd de l'oreille gauche, parce que depuis, il a été miraculé. Bon. Donc maintenant, il entend de l'oreille gauche. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller, je suis quand même un peu embêté. Alors je dis, mon père, voilà, je suis en train de m'évêcher parce que, voilà, j'ai fait une faute, et vraiment, c'est... Alors je lui dis la faute, etc. Il dit comment ? Puis il met ses bras dans la bouche. Comment ? J'étais obligé de lui hurler. C'est un bon confesseur, vous voyez ça ? C'est vrai ? Eh ben oui ! Alors, donc on en était à... Bon, ça relève du secret de la confession, de toute façon. Hein.
Alors, on n'osera plus confesser à vous, en fait.
Pardon ?
Après ça, on n'osera plus confesser à vous.
Ah bon ? Ben, je peux vous confesser à...
Vous parliez sourd.
Ah ben justement, moi je vous ferai répéter si je ne comprends pas bien. Alors, deuxième alliance. Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut arrivé à l'âge de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois irréprochable. » Voilà un nouvel aspect de la confession qu'on appelle la résolution ou le ferme propos. C'est bien la conversion. C'est bien la contrition, c'est très bien l'aveu, c'est très bien la confession, c'est très très bien la préparation, l'examen de conscience, c'est parfait l'absolution, c'est très bien la pénitence. Mais s'il n'y a pas le ferme propos, le sacrement est invalide de plein droit, je vous signale. Le ferme propos, c'est la décision de ne plus recommencer. C'est la décision de ne plus recommencer et d'obéir à Dieu pour ne pas recommencer. Et on sait que Dieu nous donnera la grâce de ne plus recommencer et je décide de ne plus recommencer. Je décide de détacher mon cœur de ce que j'aime, de celui que j'aime. Si celui que j'aime, c'est un péché de l'aimer. Parce que c'est pas lui que je dois aimer de cette manière. C'est pas mon mari. Alors je dois détacher mon cœur. C'est vrai, si je suis très 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 amoureux, très amoureuse de quelqu'un qui est déjà lié, l'amour amoureux implique quand même les passions, implique aussi une potentialité instinctive. Donc je dois détacher mon cœur. Il faut que j'accepte de détacher mon cœur de lui. Il faut que je l'accepte. Devant Dieu, je prends la ferme résolution. Et je dis à Jésus, au moins dans cet instant, je le détache complètement. C'est décidé. comprenez bien que Jésus, dans la confession de sa vie, de l'incarnation jusqu'à la mort, il a bien été obligé de constater que s'il a la ferme résolution à la place de tous les hommes, le péché ne cesse quand même de continuer à l'atteindre. Que le péché continue à nous atteindre après, c'est un fait. Mais qu'on ait la ferme propos, par tous les moyens, d'arrêter ça. Vous voyez, ça appartient à la confession. Et c'est encore une fois l'obéissance qui va être le signe de ça. L'obéissance à ce que dira le confesseur. Le confesseur te dira, si tu te détaches de ça, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Sinon tu n'y arrives pas. Alors tu fais ça d'abord, ça et ça. Yep. C'est encore l'obéissance. Vous voyez, Jésus, dans sa confession, il va jusqu'au bout. Il obéit au Père. Il s'arrache tout le temps à lui-même. Et nous l'avons ici, vous voyez. Marche devant ma face, sois irréprochable. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. À partir du moment où j'ai le ferme propos et où je coupe avec mon péché, par la volonté, par l'amour de Dieu, parce que j'aime infiniment plus l'amour infini que cet amour partiel. Et bien à ce moment-là, voyez bien, c'est une multiplication de l'amour à l'infini qui se fait. Et voilà, voyez, à chaque fois qu'il y a un petit aspect du sacrement de la confession, un aspect de la confession qui apparaît, il y a un fruit nouveau. Et on va essayer de récapituler ça à la fin, mais pour l'instant, je vous signale à chaque fois, c'est à vous aussi, quand vous serez tout seul après, de faire la petite recherche. Parce que vous voyez, on va essayer, je ne sais pas si on... Non, c'est pas bon, c'est pas très vite. Il faudrait qu'on fasse tout ça, ouais. Il faudrait qu'on fasse tout ça. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 70. On ne te nommera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ça veut dire les nations et le hai. Le hai qui rentre dans le nom d'Abraham. Le hai, c'est le chiffre, si vous voulez, de l'époux et de l'épouse. Le chiffre du dialogue contemplatif et éternel de la très sainte Trinité. Vous le savez bien. C'est le « hé » du nom de Dieu. Yod, « hé », Vav, « hé ». Et donc, il va être source d'une recréation de toute l'humanité. Toute l'humanité pourra réaccéder elle-même à la confession pour être sauvée. Et en même temps, il sera source du « hé » et de la possibilité de la grâce, la possibilité de la présence de la très sainte Trinité dans le corps des hommes et des femmes s'ils le veulent. Vous voyez, c'est ça. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne te nommera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te ferai croître extraordinairement. Et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, des saints. La sainteté sort de celui qui sort du confessionnal. Il y a des saints qui vont naître dans le monde uniquement parce que tu viens de te confesser. Tu t'es confessé. Et à l'instant où tu t'es confessé, Dieu a créé une âme spirituelle. Et ça fera un saint. Parce que tu t'es confessé dans l'intention du Christ et de l'Église. Et toute l'humanité y était. Et c'est au même instant que Dieu a décidé de créer 100, 200 âmes spirituelles. Il y a des générations comme ça. Je ferai de toi, regardez par exemple, quand Jésus est né, et il y a eu tous ceux qui sont nés à peu près en même temps que lui, ça fait les saints innocents. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, d'âge en âge, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjourneras. Le pays où tu séjournes comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alors, ayant achevé de parler avec lui, verset 22, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous les serviteurs nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Oui, j'aurais pas voulu dû sauter le verset. Voici l'alliance que vous aurez à garder, verset 10. L'alliance entre moi et vous, et tes descendants après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision. Vous vous circoncirez dans votre chair, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc c'est la circoncision qui apparaît dans cette alliance. Ce n'est plus les bêtes, vous voyez, qui sont tranchées. Vous savez que la circoncision représente bien sûr la blessure du cœur. Hein. Cette fois-ci, ce n'est plus les bêtes qui sont tranchées, mais à partir du moment où la grâce apparaît et que le pardon devient source de grâce, grâce à la foi, alors à ce moment-là, c'est la chair de l'homme lui-même qui doit être sacrifiée. Et vous avez la blessure du cœur, et c'est le Christ et les plaies du Christ qui commencent à se planter en nous. Alors Abraham prit Ismaël, son fils, ainsi que tous les serviteurs nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de sa maison, et il les circoncit en ce jour-là. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Et ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés chez lui, et ceux qui avaient été acquis des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Alors le Seigneur apparut aux chaînes de Mambré. La Trinité apparaît. Et la Trinité apparaît avec l'Eucharistie, vous vous en rappelez. S'il y a la confession dans cette contrition du cœur qui fait que le cœur saigne dans le cœur blessé de l'agneau, alors à ce moment-là, il y a la possibilité de la confession trinitaire et donc la possibilité de vivre de l'Eucharistie. Vous avez ici une succession qui se renouvelle. Vous avez toujours le symbole de la confession, du pardon des péchés, de la confession, de la miséricorde, qui précède le mystère de l'Eucharistie et le mystère de la très sainte Trinité. Vous voyez, chaîne de Mambré, et aussitôt Abraham, vite, leur dit, « Je vais vous prendre un morceau de pain, vous fortifierez votre cœur. » Troisième alliance, le sacrifice d'Isaac, chapitre 22. Alors là, évidemment, voilà une alliance nouvelle hein, qui implique cette fois-ci l'aspect victimal, hein, l'aspect expiatoire, ce qui correspond au fond à la satisfaction de la peine. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas. Et c'est là qu'apparaît évidemment le bélier réapparaît. Vous allez le voir, je vous en ai parlé un tout petit peu. Abraham prit le bois de l'Holocauste, le mit sur Isaac, son fils. Lui-même portait dans sa main le feu et le couteau. Donc il y a déjà la contrition, voyez bien. Il y a l'Holocauste, donc il y a la contrition. Il y a le feu, donc il y a la charité. Il y a l'offrande de tout. Bon, très bien. Il y a le bois, donc il y a la confession du péché. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac parla à Abraham, son père, et il dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Ça, j'ai même. La même chose que la Vierge a dit en disant, « J'ai même. » « Me voici, fiat. » On traduit fiat, mais qu'il me soit fait selon ta parole. « Me voici, mon fils. » Très belle prophétie du fiat. Dans le fiat, Marie savait qu'elle devait être l'instrument, qu'elle devait être le bourreau de son fils. Elle le savait très bien. Et c'est à ça qu'elle a dit, me voici mon fils. C'est beau ça, la confession de la femme. C'est la confession de l'homme, puis la confession de la femme, et la confession du Messie, la confession du Fils, puis la confession de la Mère. Il ne faut pas oublier que c'est les deux aspects qui vont structurer le sacrement et le mystère de la confession. Donc je vous le signale ici. Voici, Isaac dit, voici le feu et le bois. Il y a l'Esprit Saint et il y a le péché. Hein? Alors, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il y a bien l'Esprit Saint, il y a bien le péché. Mais où est l'agneau? Où est l'innocent? Où est la victime pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu verra à trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et ils allaient tous les deux ensemble. Ça c'est. Lorsqu'ils furent arrivés, vous voyez, c'est la Vierge Marie qui a pour charge de préserver pendant 9 mois Jésus de la connaissance extérieure du péché. Jésus, en tant que Dieu et en tant qu'homme aussi dans sa science infuse, connaît le péché substantiellement, mais par son centre. Il s'est incarné, donc il bitume de l'intérieur. Mais le bitume de l'extérieur, c'est la Vierge Marie, et qui doit le faire rentrer dans ce bitume, dans ce cafard de l'extérieur, ce capard, et transformer Jésus en propitiatoire. Il s'est fait pécher pour nous. Et Jésus doit faire l'expérience du péché. Et le péché doit lui rentrer en plein visage. Je vous rappelle ce que disait, je vous l'avais lu une fois, mais je vous le relis parce que c'est magnifique ce que dit Simone Veil là, sur le péché et l'innocent. Le péché exerce une contagion sous forme de péché. Le péché produit le péché. Par exemple, la colère suscite la peur. Le péché engendre le mal. Et le mal engendre un autre mal. La peur engendre la discorde. La discorde engendre la haine. La haine engendre le crime, etc. Mais au contact d'un être parfaitement pur, le péché ne produit plus le péché. Il y a transmutation du péché. Et le péché est transformé non pas en péché, mais en souffrance. C'est le mystère de l'agneau de Dieu. Telle est la souffrance rédemptrice. Toute la violence du péché humain, toute la violence criminelle de l'Empire romain s'est heurtée au Christ. Et en lui est devenue une pure souffrance. Les êtres mauvais, au contraire, lorsqu'ils sont confrontés au péché, transforment la simple souffrance en un péché supplémentaire. C'est magnifique ce que dit Simone Veil. Hein? Ça, c'est la philosophie, ça. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose de vrai en philosophie. Quand c'est un être entièrement pur, le péché ne produit plus le péché. Il le blesse. Alors le péché s'arrête. Le sang sur la neige. Le péché s'arrête. Quand c'est un être entièrement innocent. D'ailleurs, regardez, quelqu'un qui fait quelque chose qui lui paraît normal, et puis apparaît un petit enfant qu'il voit, qu'il découvre, qui ouvre des grands yeux. Il s'aperçoit du scandale de l'enfant et il arrête tout de suite. Le péché s'arrête. C'est un petit signe. C'est un petit signe. De rien du tout. Mais c'est sûr que le péché s'arrête. Quand le péché, il nous atteint et que du coup, il se transforme en péché, attention en nous. Quand le péché nous atteint et qu'on souffre, ça nous fait saigner, notre cœur saigne, c'est bien. Ça veut dire qu'on est dans une attitude de confession. C'est pas parce qu'on est dans une attitude de confession que le péché ne nous atteint plus. Le péché nous atteint, mais nous souffrons. C'est une souffrance. Il nous fait souffrir. Et vous voyez, c'est ce que nous avons ici. Marie, la Vierge Marie, un peu comme Abraham avec Isaac, la Vierge Marie, elle doit porter pendant 9 mois Jésus dans son immaculation, dans son immaculée conception, dans sa plénitude de grâce. Mais dès qu'il va être enfanté, c'est un petit peu comme la première absolution. Parce que c'est la première fois que Jésus est confronté au monde extérieur et que le péché se précipite sur lui sans avoir le Yahweh Sabaoth, si vous voulez, sans avoir cette espèce de bouclier de l'Immaculée Conception qu'il protège. C'est l'Immaculé qu'il met au monde. Et sa première absolution, parce que pour la première fois, Jésus est péché de l'intérieur et de l'extérieur. Vierge Marie, pendant 30 ans, elle sait qu'elle doit, dans la croissance du petit enfant, petit à petit l'amener à être blessée de plus en plus par le péché de ce qui est tout ce qui est autour de lui, et faire l'expérience du péché, faire l'expérience du péché qui est dans le monde. Et la Vierge Marie sait très bien que le péché d'Israël est le péché qui va, c'est Israël qui sera le bras sacrificateur. C'est pour ça que quand Jésus a 12 ans, c'est si difficile pour elle. Quand Jésus s'est livré au docteur, et puis qu'il confesse ce qu'il est, qu'il confesse la vérité, qu'il enseigne les docteurs, elle sait très bien que peut-être elle a été trop vite. De sorte que quand elle arrive, il faut voir ça, quand elle arrive, qu'elle redécouvre Jésus, elle ne se cache pas, voyez, elle confesse ce qu'elle est. Dans l'angoisse. Pourquoi tu nous as fait ça? Vous voyez, c'est ça, c'est des choses qui sont très, très, très mystérieuses. Hein? Et en même temps, ils allaient tous deux ensemble, vous voyez, c'est ça, c'est à partir de ça. Ils allaient tous les deux ensemble, Jésus et Marie, allaient tous les deux ensemble vers la grande absolution du cœur ouvert du samedi saint et du grand sabbat. Ils allaient tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait désigné, Abraham y éleva l'autel, il arrangea le bois, puis il lia Isaac son fils, il le mit sur l'autel, au-dessus du bois. Et Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Pour égorger, vous savez. La gorge. Vous savez que dans le corps mystique, à partir du moment où on est avec Noé, ça y est, la confession du péché implique la confession de toute l'humanité. Et donc c'est la confession du corps mystique. C'est le corps mystique. C'est l'homme et toute l'humanité qui est représentée et qui confesse. Je vous ai suggéré ça tout à l'heure. Vous voyez, la tête du corps mystique, c'est le Christ. Et les membres, c'est les autres hommes. Sauvé par Jésus. Et entre les deux, il y a la gorge. Il y a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le sein. Le sein, ça représente la Vierge. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous voyez, la gorge, la gorge va être mis en dehors, si vous voulez. C'est vrai, Jésus sera seul sur la croix. Il n'y aura que le bélier. Alors l'ange de Dieu lui cria du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » Ça, c'est une nouvelle dimension du fiat de la Vierge à l'incarnation. Et l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Alors Abraham allant prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils, à la place de l'humanité, à la place de la femme. Qui est la mère de tous les autres. Et Abraham nomma ce lieu Yahweh irait, d'où l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Yahweh, il sera vu. Alors, l'ange du Seigneur appela du ciel Abraham une seconde fois en disant, « Je l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Ah, voilà l'élément nouveau. La même fruit, c'est le même fruit, voyez. Donc, à partir justement de ce ferme propos et de cette conversion, de cette pénitence, puisque c'est l'aspect nouveau ici, dans cette troisième, dans cette quatrième alliance, eh bien, il va y avoir un fruit nouveau, c'est le suivant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà l'élément nouveau, ce nouveau fruit qui apparaît. En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. La confession, c'est un mystère d'espérance, et donc c'est un mystère d'obéissance. D'obéissance intérieure. Et voyez bien que c'est la victoire sur l'ennemi qui est donnée. La victoire sur Satan qui est donnée. Et la victoire sur Satan, Satan n'est vaincu qu'à la fin. Donc c'est une victoire finale. Celui qui se confesse, il est réellement celui qui donne le coup final. Le coup final à la fin des temps, à l'Antichrist. Et à Lucifer. Il faut savoir ça. S'il y a le ferme propos, s'il y a la pénitence, s'il y a cette conversion, s'il y a cette métanoïa, n'est-ce pas? Donc le bélier. Vous voyez, on a retrouvé le bélier ici. Nous allons prendre un nouveau passage pour regarder ce qui se passe à la fin du livre de la Genèse à propos de Joseph. Genèse, chapitre 37, versets 29 et suivants. Alors là, c'est très beau, Joseph, parce que dans le livre de la Genèse, Joseph apparaît. Joseph, c'est le fils de Jacob. Et puis, il est donc vendu par ses frères. Et il est vendu aux Égyptiens. Et aux Égyptiens, chez les Égyptiens, oui, je lis simplement, pardon, 18h. Bon, ben, on me laisse 5 minutes quand même. Donc je lis ce passage. Alors, verset 37, verset 29 et suivant. Ruben, alors ils le mettent dans la citerne, et puis finalement les frères, quand Ruben est parti, le vendent aux Égyptiens, et il part. Ruben revint à la citerne, et voici que Joseph n'était plus dans la citerne. Il est mis dans le trou. Ça, c'est l'incarnation, toujours pareil. Là, il est mis par la communauté. Il est mis par la communauté. Donc, vous voyez, il est mis par celle qui est la mère de tous les peuples. Il est mis dans la cuve. Ça, c'est aussi un très beau. Et il déchira ses vêtements. Et étant retourné vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Cette fois-ci, c'est l'enfant. Et pas épargné, là. Ils prirent alors la robe de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la robe dans le sang. Et ils envoyèrent à leur père la longue robe, en lui faisant dire, « Voilà ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la robe de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Dans le sang du bélier, dans le sang du bouc. Le sang du bouc a éclaboussé l'enfant. Le mystère de la compassion qui est inscrit là, j'espère que vous le sentez, qui est justement cette co-rédemption. Il a pas dit comment. Il a dit, c'est à vous. Avec l'aide de la Vierge Marie, avec l'aide de l'Esprit-Saint, qui aurait l'infaillibilité pour structurer le tissu des sacrements. Ça, c'est dit explicitement dans l'Écriture. Hein. Donc, des gens qui refusent les sacrements, tel ou tel sacrement, sous prétexte que, au XIIe siècle, c'était pas le sacrement de pénitence, c'était pas exactement pareil qu'au IVe siècle, etc. Mais alors ? Et la messe de toujours, c'est la vraie messe, c'est la messe d'aujourd'hui, c'est plus la vraie messe. Mais alors ? Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Sacrement de l'amour ou pas ? Entre le Christ et l'Église. Sacrement de complémentarité. C'est l'amour qui fabrique les sacrements. Ou bien c'est de la magie. Il faut respecter les formules. Mais c'est quand même, il faut respecter les formules si Jésus, l'Esprit Saint, Marie et l'Église sont d'accord. Là, oui, il faut respecter tout. Là, c'est sûr. Mais voyez, vous l'avez ici. Quelque chose de très beau. Alors à ce moment-là, effectivement, vous voyez, alors il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, fit le deuil de son fils pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose de très fort. Il faut lire tout le livre de Joseph pour comprendre comment Joseph va pardonner à ses frères. Oui, parce qu'il y a le pardon à ses frères. Parce qu'il y a le pardon de nos propres péchés, il faut que soient pardonnés les péchés de l'humanité tout entière, et il faut aussi pardonner à nos frères dans la foi. Parce que quelquefois, il y a des blessures, il y a des liens surnaturels qui se font par la charité fraternelle, et qui sont surnaturels. On est lié dans l'Immaculé, on est lié dans le Christ, on est lié dans l'Esprit Saint, et de temps en temps, il y a un frère qui... C'est plus qu'une faute, vous voyez. C'est plus qu'un péché. Il faut le pardon des frères. Il faut pardonner à ses frères. C'est le pardon à une faute qui nous... où on est blessé dans quelque chose qui nous liait surnaturellement à notre frère. Pardonner à ses frères. Et ça, vous voyez, c'est le sacrement devient quelque chose de très très fort. C'est relier toujours le tissu de l'Église et du corps mystique de Jésus. Pour que même les péchés... entre frères, les péchés de l'Église catholique, les péchés de nos frères, ceux qui sont plus proches de nous, c'est ceux qui sont jaloux parce qu'on a reçu la grâce sanctifiante. Quelquefois, on a ça en nous. Hein. On dit, il reçoit plein de grâces, moi je ne reçois aucune grâce. Alors du coup, on fait tout pour qu'ils ne reçoivent plus la grâce. Ça arrive, ça. Ça arrive dans les communautés religieuses, ça arrive. Mais il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Si c'est comme ça, il ne faut pas s'affoler, vous savez. C'est justement un péché comme ça, sera source d'une gloire encore plus grande. C'est pour ça que c'est plus méritoire de rentrer dans la communauté, du point de vue de la charité. Parce qu'on sait qu'on fera ces péchés-là, qui sont beaucoup plus graves que tous les autres. Hein. Mais on sait qu'en les confessant, on sera source d'une plus grande gloire. Parce qu'on engendrera la Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem céleste qui sera le fruit d'une confession de ce genre. Si vous voyez un point, tandis qu'on parle, qu'on lit l'Écriture, que vous repérez et que vous dites, mais c'est ça, c'est là qu'il faut qu'on s'enfonce, qu'on creuse, dites-le-moi. Dites-le-moi, et puis on va creuser ça. Parce que c'est sûr que tout c'est tellement vaste. Le mystère de la confession est quelque chose de tellement vaste. C'est quelque chose de récapitulateur, si vous voulez. C'est quelque chose qui récapitule toute la vie de Jésus, puisque Jésus a été une confession. Jésus, c'est la confession du Père. C'est pour ça qu'il institue le sacrement de confession à la fin, et après la croix, et après la résurrection. Pour montrer que c'est le sceau récapitulateur de tout ce qu'il est. Et il a toujours été cette confession. La confession au Père du péché du monde, et la confession au Père qu'il y a l'amour qui est victorieux de tout. La confession au Père qu'il est le Père, et que le Père a toujours son Fils dans un amour éperdument éternel. C'est ça, toute la vie du Fils. C'est ça toute la vie du Christ. La vie du Christ, c'est une confession. Il s'est fait confession pour nous. Et si nous voulons vivre de Jésus, si nous voulons vivre du Fils, si nous voulons être en face du Père, il n'y a pas d'autre moyen, du point de vue des sacrements, que de rentrer par le sacrement de la confession. Il aurait pu, évidemment Jésus, il aurait très bien pu nous donner, comme font les grands maîtres, les grands gourous, les grands maîtres de l'Inde, ou les grands maîtres gnostiques d'Occident, il aurait très bien pu nous donner des grandes théories sur le Père, des grandes voies d'accès ésotériques pour regarder la grandeur extraordinaire de la paternité éternelle, de celui qui est le principe, n'est-ce pas ? De l'émanation, comme ils disent, de la lumière. Les principes d'un tout. Mais non, il n'a pas fait ça. Parce qu'il sait très bien que pour les pécheurs et pour les hommes, l'accès au Père se fait par le point de vue d'une vérité concrète. Et ce n'est pas par les théories, ce n'est pas par la gnose, ce n'est pas par l'intelligence, pas du tout par l'intelligence qu'on accède à cette vocation d'être dans le sein du Père. À cette vocation d'être ce que nous sommes en plénitude et en pleine connaissance. C'est par la vérité concrète. Et la vérité concrète, ce qui vient de nous et qui ne vient pas des autres, ce qui ne vient de nous, qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient de nous seul, c'est le péché. C'est ce que nous avons vu. Ça, c'est sûr. Le péché vient de nous. Et donc, quand on dit son péché, on est sûr que cet acte vient de nous. On est sûr que cet acte ne vient pas de Dieu. On est sûr que cet acte ne vient pas de notre père, de notre mère, ne vient pas de l'autorité. Parce que si ça venait de l'autorité, ce serait plus un péché. Ce serait une imperfection, ce serait une faute. C'est vrai. Si quelqu'un, l'autorité, un prêtre, me dit quelque chose, et il me dit, mais non, pas de problème. Bon, tu es fiancé avec cette jeune fille, mais si accède à ses désirs, sinon tu risques de la perdre et pas te marier avec elle. Donc c'est pas grave, t'es fiancé. Donc le prêtre te donne un conseil contraire à la volonté de Dieu. Tu le fais. Mais tu crois vraiment que ce qu'il dit est vrai. T'as fait une faute, mais t'as pas fait un péché. Mais les péchés, c'est les actes que tu commets toi-même. Par toi-même, en pleine connaissance. Alors là, c'est sûr que c'est toi. Et donc, si tu présentes ce que tu es, et ce qui vient uniquement de toi, tu ne présentes que ton péché, sans aucune justification. Alors à ce moment-là, tu es en pleine vérité, en face de Dieu, en face de l'Église, en face du Christ, en face du prêtre, en face de l'homme, en face de l'étranger, en face de celui dont tu es séparé, le Père. Et à ce moment-là, le seul fait d'être en pleine vérité, ça y est, tu es pardonné. Parce que, vous voyez, c'est ce que disent les Midrash. Les Midrash, par exemple, à propos du pardon, il dit que l'homme ne peut pas recevoir le pardon s'il ne reconnaît pas son péché. Donc la première confession qu'on doit faire, on doit se la faire à soi-même. De même que le premier pardon qu'on doit faire, c'est de se pardonner à soi-même. Si on a le temps, on reprendra mystiquement quelles sont les grandes voies du pardon. Ce sera en fait un rappel, parce que nous l'avons vu souvent, je crois. Les 5 manières de vivre jusqu'à la racine du pardon que donne le Christ. Mystiquement. Il y a la voie sacramentelle, il y a la voie mystique. Mais la voie mystique dépend du sacrement. Et Jésus, il a inventé une vérité concrète, c'est les sacrements. C'est pas des théories. C'est pas en disant le Père, l'émanation, etc. Tu rentres dans cette lumière, tu es toi-même entièrement pris par la lumière cosmique christique, et du coup tu es le Père, et tu es dans le Père, et tu es l'émanation du Père. Oui, mais ça c'est de la gnose. Mais Jésus invente une vérité concrète, le sacrement, parce que cette vérité me met en vérité. Et cette vérité concrète est la seule qui soit efficace. La gnose n'est pas efficace, mais le sacrement est efficace. Et donc tout ce que Jésus fait toute sa vie, c'est qu'il confesse le péché. Il reçoit le péché en pleine chair, en plein cœur. Et le péché s'arrête sur lui sous forme de souffrance. C'est le seul qui soit comme ça. Nous, le péché vient sur nous, et du coup, il y a un tout petit peu, quelque part, une complicité. Et le péché, du coup, se transforme dans un autre péché. Tandis que Jésus, c'est le contraire. L'Immaculé, c'est pareil. Le péché vient sur elle, le péché vient sur lui, et se transforme en souffrance. Alors il s'arrête. Mais pour que notre péché s'arrête, et se transforme en face à face avec le Père et en gloire, il faut reconnaître son péché. Et il faut que on dise ce péché en pleine vérité, tel qu'il est, et qu'on le dise à Jésus, qu'on le dise au corps, puisque Jésus est parti, qu'on le dise à son corps mystique, à sa présence réelle. Sa présence réelle, c'est le sacrement. Il faut qu'on le dise à Jésus, et qu'on le dise en pleine vérité. Et Jésus n'est présent réellement que dans le sacrement. Tout le reste est symbolique. Donc, le reste, tous les autres modes, voies d'accès sont pas efficaces, d'une certaine manière. Bon, nous allons donc un petit peu voir, justement, continuer à voir dans l'écriture. Aujourd'hui, je voudrais... Donc, n'hésitez pas donc de m'arrêter, pas pendant qu'on parle, mais par un petit bout de papier, de manière à ce que ce soir, on puisse creuser certains points. Donc, on a vu dans le livre de la Genèse un certain nombre de choses. Et notamment, nous avons vu que la trahison, le fait que Joseph, nous en étions arrêtés là, avait été livré par ses frères. Eh bien, voilà comment Joseph, après avoir été donc le grand premier ministre de Pharaon, voit arriver la famine, et au milieu de la famine, les frères qui l'avaient mis dans la cuve et livré aux Égyptiens reviennent, demandent secours. Alors, chapitre 43, verset 16. Alors comment, en effet, Joseph va pardonner à ses frères? Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue des victimes, apprête un repas, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Pendant qu'on les conduisait à la maison de Joseph, les hommes eurent peur, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent rapporté l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. » Vous voyez, alors ça... C'est que Joseph, voyez, avait reçu la visite de ses frères une première fois. J'ai pas le temps de vous le dire, ils n'avaient pas confessé leur péché. De toute façon, ils n'avaient pas reconnu Joseph. Mais ils avaient raconté des histoires. Et Joseph savait très bien qu'il racontait des histoires. Il ne disait pas la vérité. Alors, il leur dit, vous n'avez pas un autre petit frère, là? Et oui, il y a Benjamin, qui est né de la même mère que lui, Rachel. Alors il dit, mais dites-moi, amenez-le-moi, je ne vous donne rien sinon. Amenez-le-moi. Oh, mais non, on ne peut pas l'amener, notre père va mourir. Il va considérer que, que sa vie est fichue si ses deux fils sont... Enfin, si ce fils-là va mourir, il ne parle pas du premier. Il dit, amenez-le-moi. Puisque vous ne reconnaissez pas le premier, eh bien amenez-moi le second. d'une certaine manière, hein, c'est sous-entendu. Et puis, donc, la deuxième fois, ils arrivent, et ils s'aperçoivent que Benjamin est là. Et quand ils s'aperçoivent que Benjamin est là, dans son cœur, il leur pardonne. Et c'est pour ça que je vous lis ce passage. Et effectivement, aussitôt que Joseph a pardonné dans son cœur, dès que Joseph vit Benjamin avec eux, voyez, il leur pardonne. C'est ce que dit le Midrash, c'est à ce moment-là qu'il leur pardonne, mais il leur donnera l'absolution beaucoup, un petit peu plus tard. Mais d'abord, il leur pardonne. Et aussitôt, fait entrer ces gens dans la maison. Le pardon réintroduit donc dans l'église. Tue des victimes, apprête un repas, car ces gens mangeront avec moi à midi. Voyez, c'était juste pour vous signaler que le pardon, d'après les rabbins, se situe au moment où Benjamin est là. Adam est pris par le péché, et c'est le cadet, voyez, c'est le Benjamin. Donc c'est le Christ qui est donné à Joseph, et c'est là que Joseph pardonne, d'une certaine manière. Voyez, c'est très très beau. Alors à ce moment-là, il y a la possibilité du repas. Bon, très bien, le repas, c'est l'Eucharistie, je vous le rappelle. Aussitôt, et vous voyez, c'est quand même au chapitre 45, versets 1 à 28, donc beaucoup plus tard, que Joseph se fait reconnaître de ses frères, et donc il donne l'absolution. Ce qui montre bien que dans la confession, il y a tout un mystère qui fait que le pardon précède l'absolution. C'est ce que nous verrons. Il y a tout un ensemble d'actes dans le pardon, dans la confession. Et on voit que Dieu pardonne avant qu'il y ait la confession. Avant, je veux dire, pas avant qu'il y ait la confession, mais avant qu'il y ait l'absolution. Et donc, vous voyez ici, on l'a de manière assez claire. Donc, d'une part, le lien avec l'Eucharistie, et d'autre part, le fait qu'il y a une pré-confession, et qu'il y a une préparation à la pénitence, au ferme propos, au retour vers Dieu, à l'obéissance, il va y avoir exhortation, il va y avoir ensuite la fameuse pénitence qui va être donnée, et alors il va y avoir l'absolution. Et donc il y a toute une montée dans le mystère de la confession, qui est une montée qu'on trouve du reste dans la vie du Christ. Dans la vie du Christ, il y a cette grande montée que nous retrouvons dans tout le processus du sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence récapitule toute la vie du Christ. C'est ce que nous verrons peut-être à la fin.